Chers amis, nous allons recommencer. Je vous prie de vous asseoir. Voilà, alors donc nous allons passer maintenant à la suite de notre après-midi littéraire. Après ce dialogue glissant austère que vous avez certainement apprécié, nous avons donc une après-midi qui se poursuit par une table ronde, Perse et les écrivains. Alors dans un premier temps, nous aurons deux romanciers et dans un second temps, deux poètes. Saint John Perse nous le dit, j'ai lieu de louer, moi aussi j'ai lieu de louer, je vous l'ai déjà dit, car encore les exercices d'admiration, vous avez là des écrivains qui sont pour moi essentiels. Donc vous m'excuserez d'être dithyrambique, vous m'excuserez d'être parfois hagiographique, mais je veux dire ma ferveur de leur présence qui est ici pour nous un honneur absolu. Et donc, voilà comment l'après-midi va se dérouler. Nous allons d'abord présenter le lien de Chamoiseau et de à Saint-John-Perse. Par la suite, nous allons visionner un document tout à fait extraordinaire qui a été réalisé en Martinique. Et je remercie donc la disponibilité de Patrick Chamoiseau pour ce document. Il a été réalisé par les soins d'ATV, Anti-Télévision, et notamment d'Arlette, journaliste de premier ordre, qui a une émission en Martinique, qui s'appelle Ligne de vie. Et Arlette Paquitte s'est distinguée en tant que journaliste il y a quelque temps de cela, en réalisant une interview absolument mémorable d'Aimé Césaire. Alors donc vous allez entendre Patrick Chamoiseau nous parler de son lien à Saint-John-Perse, du lien des Antillais à Saint-John-Perse également. Le document dure environ 45 minutes. Et ensuite donc nous allons passer à Fortuné Chalumeau à ma gauche, et donc à nos deux poètes, Claude Vigée et Kenneth White. Alors, pour ce qui est de Chamoiseau, je vous dirais que le lien de Chamoiseau à Saint-John-Perse est déjà ancien. Vous pouvez vous référer à des textes qui existent, qui ont été beaucoup commentés. 1997, c'est L'esclave, vieil homme et le molosse, mais c'est également Écrire en pays dominé, un essai dans lequel Chamoiseau met au point et au clair la place essentielle de Saint-John-Perse dans sa maturation littéraire et dans sa maturation intellectuelle. Vous avez aussi en 2002, surtout, ce qui constitue pour moi certainement l'acmé, le sommet de la relation de Chamoiseau à Saint-John-Perse, dans Biblique des derniers gestes, publié aux éditions Gallimard, et donc sur lequel Chamoiseau aura l'occasion donc de revenir en long et en large, ne vous inquiétez pas. Alors, écoutez, ce que j'ai à dire là-dessus, à propos notamment de Biblique des derniers gestes, c'est que dans le sillage d'Édouard Glissant que nous avons entendu ce matin, il y a une spécificité des auteurs antillais à avoir su sonder la valeur spécifiquement humaine de ce poète. Ce n'était pas évident au départ. Glissant vous l'a expliqué tout à l'heure, il y avait des liens, il y avait un rapport qui n'était pas un rapport poétique, mais qui était aussi un rapport d'ambiguïté, de position, de positionnement anthropologique, et qu'il a fallu dépasser. Chamoiseau est également exemplaire de ce dépassement qui est intervenu, car il l'a fait, il l'a reconnu. Au début, il était césarien, il était peut-être même césarolâtre, comme il le dit. Donc, Saint-John-Perse était pour lui la voie du colonialisme, et c'était une lecture très, donc, restrictive. Et puis il s'est ouvert, notamment à la lumière de la lecture d'Édouard Glissant, il s'est ouvert à la valeur spécifiquement humaine et à une autre forme d'antillanité de Saint-John-Perse, et il va s'en expliquer. Et puis voilà, les choses doivent aboutir pour les écrivains à des textes qui restent dans l'histoire, des textes fondamentaux. Et je vais vous le dire très clairement, je considère que l'une des pages les plus flamboyantes qui ait été consacrée à Saint-John-Perse ces dernières années a été écrite justement dans Biblique des derniers gestes par Patrick Chamoiseau. Il y a là le parcours du héros, Balthazar Baudule-Jules, qui, tout au long du roman, car la présence de Saint-John-Perse d'une certaine façon est intégrée à la trame romanesque, va entendre différentes voix lui parler de Saint-John-Perse. Alors, quelques-uns vont lui parler du colonialisme de Saint-John-Perse, d'autres vont lui dire que non, pas du tout, c'est un poète infiniment subtil et qu'il n'a encore rien compris. Et puis, il va cheminer. Et au bout de sa vie, il y a la vieillesse et il y a les pas d'homme vers l'issue, comme nous dit Saint John Perse dans Chronique. Et alors, il relit Chronique. Et Balthazar Baudule-Jules comprend à ce moment toute la valeur intime de cette parole. Et ce texte qui est pour nous antillais, mais pas du tout uniquement pour nous antillais, quelque chose de fondamental, je voulais qu'avant d'entendre cette interview fondamentale de Chamoiseau, je voulais qu'on l'entende par la bouche de Samia Kassab Charfi. Et le voici.
Il comprit alors qu'il était en face de l'ennemi intraitable, en face de la vieillesse, une nouvelle guerre dans laquelle il lui fallait tomber. À l'orée de cette bataille, il en prenait conscience avec une lente surprise. Il appela la poésie. Il y chercha des armes et des soutiens. C'est sans doute à cette époque qu'il se remit à lire Saint John Perse. Il avait rencontré le poème où Perse murmure « Grand âge, nous voici, et nos pas d'hommes vers l'issue. C'est assez d'engranger, il est temps d'éventer et d'honorer notre ère. Grand âge, nous voici. Prenez mesure du cœur d'homme. » Il avait aimé cette attitude sereine, hautaine, royale, face à la mort elle-même. Perse l'avait eue envers tous les êtres du monde. Mais qu'il la garde face à la mort le rendit mieux humain, sans doute plus proche de lui. Cette hauteur conquérante, il l'avait érigée face à la vie elle-même, à sa vieillesse et à sa mort. Il avait gardé la posture jusqu'au bout. Un exercice d'élévation dans la condition d'homme. Pour la première fois de sa vie, monsieur le vieux Balthazar Baudule-Jules se dit que Saint John Perse avait été un homme d'abord, tout simplement. Un homme en débattre dans sa pauvre condition. Il relut autrement les poèmes, en éloignant ces vieilles raideurs rebelles. Ils habillèrent son existence de leur lumière particulière. Son âge et son curieux désordre mental lui permettaient d'accéder à une divination plus intense que celle qu'il avait connue en compagnie de Sarah, Anaïs, Alicia. La poésie de Perse devenait un extrême du vivant, un éclat d'homme en vie. Peu importait les faiblesses de cet homme, ses manques ou ses absences, ses pauvres croyances dressées dans le confort d'une époque aliénante. Cherchez l'homme, devinez ce qu'il tentait de faire dans ce désordre tragique. La poésie se mit à le nourrir ainsi, contempler les forces contraires et supporter cette vue jusqu'à la trouver belle. Cette beauté ne résonnait plus en dehors de lui-même, comme un objet net et lisse d'admiration savante. Elle plongeait, chaotique, directe dans sa chair, nourrissait l'atmosphère tourmentée de la case et du jardin autour de lui.
Nous allons, vous nous excuser, rejoindre le public pour pouvoir visionner ce document qui va commencer maintenant.